Hassni Abidi, bonjour.
Bonjour.
Avant d'être rattrapé en mai par le conflit israélo-palestinien, la priorité de l'administration Biden au Moyen-Orient, c'était l'Iran, et vous parlez d'un paradigme iranien. Pourquoi ?
Parce que la question iranienne fait désormais partie des priorités les plus urgentes de l'administration américaine. C'est un fondement même de sa politique étrangère à l'égard du Moyen-Orient. Le président Biden, mais aussi ses proches conseillers, Robert Malley, l'homme bien sûr de dossier iranien, Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité, mais aussi Anthony Blinken, sont convaincus qu'une résolution de la crise iranienne, pacifier l'Iran, normaliser l'Iran, conduirait forcément à une situation d'apaisement des relations diplomatiques entre l'Iran et ses voisins, réduirait la puissance et la nuisance des Iraniens dans la région, bien sûr, allusion faite à l'Iran, à l'Irak, à la Syrie et bien sûr au Liban.
Et puis la guerre au Yémen.
Oui, parce qu'ils savent très bien que finalement, les Houthis sans le Yémen, ils ne pourraient pas résister aux compresseurs de l'Arabie Saoudite. Le Liban, on sait très bien que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, est devenu un État dans l'État. Et l'Irak, le chef de gouvernement, M. Kazimi, très proche de l'administration américaine, à toutes les peines du monde, a réglé la question de ce qu'on appelle le Hashd Sha'bi, la mobilisation populaire, et aussi le pouvoir exorbitant des milices chiites ou des partis qui sont proches des Iraniens. Sans oublier, bien sûr, la Syrie. Sans l'Iran, bien entendu, Bachar al-Assad ne serait pas là au pouvoir, en tout cas pas dans cette situation. Et on sait que l'influence iranienne, elle va au-delà de ce périmètre.
Et ce que vous soulignez dans ce livre collectif, c'est que pour cette équipe, la clé pour un futur Moyen-Orient en pacifique, c'est donc un Iran pacifié, mais c'est donc pour un désengagement des États-Unis de cette région.
Oui, alors vous avez raison de souligner, désengagement a commencé déjà sous Obama et bien sûr poursuivi par le président Trump. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que avant même l'arrivée de président Biden à Maison-Blanche, il y avait un vent de panique qui s'est emparé de la région. On a bien vu, par exemple, la Turquie qui maintenant normalise ses relations avec l'Égypte. On voit aujourd'hui des négociations très importante entre le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, et les Iraniens sur le sol irakien. Donc il y a des changements de configuration dans la région, parce qu'ils savent très bien que finalement, le dossier nucléaire iranien est très important pour Biden, et pour être aussi bien vu par Biden, il faut bien ne pas le gêner, en quelque sorte, dans ce nouveau paradigme, dans sa philosophie, dans son approche envers les Iraniens. Et tous ces États-là font presque une offre de service à Biden pour dire « Oui, nous vous soutenons dans ces dossiers-là qui sont tous liés, bien sûr, à la question iranienne. »
Et justement, dans les reconfigurations actuelles, donc on a aussi la fin du blocus du Qatar. Donc, tous ces repositionnements liés à l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche ?
Ah oui, absolument. L'arrivée de Biden a été l'accélérateur, et je dirais, avant d'être accélérateur, le déclencheur de cette nouvelle reconfiguration. On a toujours dit aux étudiants et aux spécialistes du Moyen-Orient que la politique étrangère américaine ne change pas avec le changement de titulaire de la Maison-Blanche, qu'il soit républicain ou démocrate. Mais avec Trump, on a vu l'inverse. Le président Trump réserve son premier voyage à l'étranger à Riyad. Il ne l'a pas réservé au Canada, au Mexique, comme le veut la tradition. Et d'ailleurs, il tourne le dos à ses alliés traditionnels, les membres de l'OTAN et l'Union européenne. Et il veut même se démarquer de l'Alliance atlantique. En quelque sorte, il a opéré une rupture. Et c'est pourquoi cette présidence de Biden, surtout le début, il faut aussi la lire comme une phase de transition. Biden veut réparer, en quelque sorte, les dégâts causé par la politique étrangère américaine, qui est une politique étrangère, à mon avis, qui était presque une politique familiale, gérée entre Trump et son gendre, on l'a bien vu avec les accords d'Abraham. Donc là, je pense que oui, il y a une nouvelle configuration, il y a un changement d'alliance, la fin du blocus, certains pays qui étaient quand même presque plus que snobé, écoutez, le président Biden, il a dit, Mohammed Ben Salman n'est pas mon égal.
Je vais discuter avec le roi Salman.
Je discuterai avec le roi Salman. Et on a bien vu que ça a changé, parce que Mohammed Ben Salman a tout de suite pris cette initiative de négocier avec les Iraniens pour rassurer l'administration Biden que l'Arabie Saoudite ne serait pas, en tout cas, contre les pourparlers entre les Américains et les Iraniens. On a bien vu aussi avec la crise du Qatar, la fin du blocus, mais aussi le rapprochement entre la Turquie et l'Égypte. C'est important parce que Biden avait dit qu'il va s'attaquer aussi aux régimes autoritaires, allusion faite au président Sisi et Erdogan. Le président Sisi a eu droit à deux coups de fil de la part de Biden en une semaine. C'est un record pour dire finalement aussi Biden redécouvre la réelle politique du Moyen-Orient.
Alors, vous parliez du président turc Erdogan. Lors du sommet du 14 juin prochain, une bilatérale est annoncée entre Biden et Erdogan. Biden peut-il, veut-il ramener la Turquie dans le giron américain?
Écoutez, il a commencé fort, hein, le président Biden aussi. Erdogan était un peu inquiet parce que finalement, il a réussi à canaliser le président Trump. Certes, les relations n'étaient pas bonnes, mais le président turc est un habile politicien. Et le président Trump, il a surtout utilisé l'arme économique qui est très importante à la fois pour Erdogan, mais aussi pour l'AKP. On sait que la force d'Erdogan, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est redresser un petit peu l'économie turque. Aujourd'hui, ce tête-à-tête à Bruxelles montre en effet que le président Biden a compris qu'il ne peut pas faire l'économie justement de son passé de président turc, que la Turquie, comme la deuxième armée, le membre le plus influent après les États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique, qu'il y a certains dossiers très importants où la Turquie joue un rôle décisif, comme la Syrie et comme la Libye. C'est pourquoi on va probablement vers un début de normalisation avec le président Erdogan. De la même façon d'ailleurs que le président Sisi a utilisé la question palestinienne et la question de Gaza pour se profiler comme l'interlocuteur incontournable dans la région.
Alors justement, vous faites référence à l'escalade militaire qui a duré 11 jours entre Israël et le Hamas, qui a remis de la centralité à la question palestinienne pour l'administration Biden. Mais en même temps, Anthony Blinken, quand il est venu sur le terrain, donc à Ramallah, à Jérusalem, au Caire, à Amman, quelques jours après le début du cessez-le-feu, il a expliqué venir consolider le cessez-le-feu. Ça n'ira pas plus loin de la part de l'administration Biden?
Finalement, on a découvert que l'administration Biden n'était pas du tout préparée pour faire face à ce conflit. C'est vrai que les déclarations d'Anthony Blinken ne sont pas très rassurantes. Renforcer le cessez-le-feu, on n'a pas besoin de tout le poids américain pour le renforcer. On peut très bien faire appel, comme d'habitude, à des sous-traitants comme l'Égypte et comme le Qatar ou la Jordanie, et qui le font d'ailleurs très bien, et pas forcément dépêcher le secrétaire d'État américain. Donc, ça montre finalement que les Américains n'ont pas changé leur paradigme, ou c'est-à-dire qu'ils vont finalement continuer dans la même approche, consolider un cessez-le-feu, boycotter le Hamas parce que c'est une organisation terroriste, soutenir l'autorité palestinienne alors que tous les jours on découvre que à la fois Mahmoud Abbas mais son autorité sont complètement dépassés, disqualifiés pour jouer un rôle quelconque dans un processus de paix. Et ce processus de paix d'ailleurs, c'est un processus de paix qui est mort, processus de paix qu'il faut absolument réinventer.
Et d'ailleurs, vous dites que Biden attend le départ de Netanyahou et d'Abbas.
Je crois que lui, il est arrivé à cette conclusion selon laquelle que ces deux hommes-là ne peuvent pas proposer de nouveau dans le conflit israélo-palestinien. Et c'est vrai, c'est un, à mon avis, un constat amer, mais il correspond à la réalité. Mais en même temps, on sait très bien que la question israélo-palestinienne, elle dépasse la question des hommes. C'est une question plutôt, à mon avis, de droit international. C'est une question des choses qui fâchent, que personne ne veut vraiment aborder. La question des réfugiés, la question du statut de Jérusalem, la question, bien sûr, de futur État palestinien, la question du Hamas. Dans notre livre, on essaie de parler, de dire, écoutez, le Hamas, il faut absolument arriver à un deal avec le Hamas. Tant qu'on n'a pas dépassé ce paradigme-là de dire « oui, on ne peut pas dialoguer avec une organisation terroriste », je crois qu'il est très difficile d'avancer dans ce processus.
Et par contre, Joe Biden, qui est le chantre de multilatéralisme, n'a pas voulu, comme toutes les autres administrations, d'une résolution de l'ONU sur la question.
Ah oui, là, ça, c'est une continuité. Vraiment, c'est à l'américaine. Biden, c'est vrai qu'il a bâti sa campagne électorale sur le retour à l'approche multilatérale. C'est-à-dire... L'approche multilatérale, il faut la préciser, c'est quoi? C'est la négociation, c'est la légalité internationale, c'est le rôle des organisations internationales.
Donc de l'ONU, possiblement.
Donc l'ONU, le Conseil de sécurité et des résolutions. Mais j'insiste là-dessus, parce que le dernier projet, il est français. La France a présenté une des meilleures résolutions, très équilibrée, et pourtant elle a été rejetée par les États-Unis. Et là, on s'interroge sur l'administration Biden veut un retour à l'approche multilatérale, mais pas quand il s'agit de conflits israélo-palestiniens. C'était une des contradictions les plus flagrantes de cette nouvelle administration.
Merci, Asni Abidi.
Merci à vous.